Bonjour, bonsoir, chers élèves. Aujourd'hui, cours de français niveau avancé. Vous rappelez que la semaine passée, nous étions arrivés à lire la pensée éparpillée par la toile. Nous avions posé des questions, je vous avais posé des questions et pouvoir expliquer un peu. Je vous ai dit que nous allions voir le tableau ici présent du martyr de Saint-Denis par Léon Bonnet, mais je vois que pouvoir répondre à ces questions, il va falloir que vous ayez le CD-ROM. Or, le CD-ROM, nous l'avons pas sur le site, malheureusement, et pour l'instant, au moins, nous l'avons pas. Donc, nous ne pourrons pas travailler ce texte et cette toile, ce tableau, en fait, car il faudrait écouter l'extrait d'une conférence du philosophe Michel Serres sur ce tableau, le martyr de Saint-Denis. Mais ce que vous pourriez faire, vous, si vous voulez, bien sûr, c'est de faire une petite recherche sur ce tableau, le martyr de Saint-Denis. C'est quoi en fait le tableau? Qu'est-ce qu'il représente en fait? Quelle est son histoire? Et comment pourrait-il peut-être entrer dans cette relation entre les nouvelles technologies et les hommes, nouvelles technologies, je vais parler des machines en fait, et les hommes, comment faire la relation entre ce tableau et ces fameuses machines, en fait. D'accord? Parce qu'on voit ici une scène d'une exécution d'un homme. Et quelle est la relation peut-être avec les machines? Vous pourriez peut-être faire une petite recherche pour savoir plus ou moins à quoi fait référence le tableau, dans un sens peut-être même voire philosophique, et qu'est-ce qu'il pourrait représenter pour la machine? Hein? Quelle est la relation qu'elle pourrait avoir avec les nouvelles technologies? D'accord? Moi, ce que je vous propose, après, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire que cela, on va passer, vous pourriez, sinon, faire à la page 19 de votre livre, Alter Ego 5. À la page 19, vous avez deux textes. Un ici qui est en bleu, le premier, et le deuxième. D'accord? Deux textes. Nous allons les lire ensemble et on va essayer de répondre à ces questions qui se trouvent en bas, bien sûr, et puis faire une petite analyse à partir de questions que je vous posais moi-même pour que vous puissiez peut-être répondre. D'accord? Allons-y. Nous allons un peu agrandir le texte, parce qu'il est un peu petit là, je ne peux pas le voir très bien, donc je vais l'agrandir. Voilà. Là, on voit mieux. Parfait. Je vais mettre ça ici, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Premier texte de Raphaël Steinville dans le magazine, la revue Demain, la littérature sans papier. Le Figaro Magazine du 27 juin 2008. Donc, il n'y a pas longtemps, ça fait plus ou moins 7 ans, d'accord? En fait, il y a 7 ans. Je commence. Même si le livre et les éditeurs font encore de la résistance, la littérature sans papier pourrait bien devenir, et plus vite que prévu, le standard de demain. Fini alors, pour les écoliers, les sacs à dos surchargés de manuels scolaires, d'histoire, géo, de mathématiques ou de physique-chimie. Fini les valises intransportables que déplace le papyvore d'un lieu de villégiature à l'autre pour ne pas bronzer idiot sur la plage. Pour autant, cette révolution attendue ne signera pas la mort du livre papier. La standardisation prochaine de la littérature numérique va probablement consacrer le grand retour du livre objet mieux imprimé et pourquoi pas enluminé, au détriment du livre de poche qui, à moyen terme, semble déjà condamné. Quant au métier d'éditeur, s'il va connaître très probablement quelques turbulences, il ne risque pas de changer radicalement. Plus que jamais, ceux-ci, les éditeurs, auront le rôle essentiel de dénicher les vrais talents parmi les dizaines de milliers de prétendants qui, grâce aux livres numériques, rêvent déjà d'être publiés facilement. Premier texte. Deuxième texte. Ce sont des propos de Bernard Poulet, recueillis par Anne Grignon dans la revue Le Nouvel Observateur du 16 février 2009, il y a 6 ans. L'arrivée de la digitalisation a produit sur le journalisme le même effet que la mondialisation sur les classes moyennes. La révolution digitale dans la presse, c'est l'euthanasie à terme de la classe moyenne des journalistes. La profession est en mutation. On voit grandir une masse d'OS, ouvriers spécialisés, de l'info qui alimente les tuyaux de l'information rapide. Et à côté de cela, on aura des journalistes qui apporteront une plus-value avec une véritable expertise et une grande qualité d'écriture. Chez vous, au Nouvel Observateur, je pense à quelqu'un comme Michel de Tracontal, par exemple, qui ajoute à l'expertise scientifique un talent d'écriture. Ceux qui représentent la classe moyenne, qui ont fait le gros des rédactions, à laquelle j'appartiens, vont être broyés. Je crois que les journalistes qui surnageront, sont appelés à devenir leur propre nom. Parfait. Bien. Essayons de répondre aux questions d'abord du livre. 1. Enfin, numéro 7. Lisez les deux articles ci-dessus. Quelle est leur thématique commune? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux? D'accord? Voilà. 8. A. Relisez le premier article. 1. Relevez les éléments qui soulignent les inconvénients du livre papier. Ça s'ouvre dans la première partie. 2. Expliquez l'expression « ne pas bronzer idiot sur la plage ». Ouais. Bronzer. Faire de la bronzette, en fait. C'est devenir un peu brun. Hein. Se mettre au soleil pour prendre de la couleur. Idiot sur la plage, ouais. 3. D'après le rédacteur, quelles sont les transformations qui se profilent dans l'avenir, dans le premier article? Surtout pour le rédacteur, ouais. Surtout pour les éditeurs, hein. Dans ce cas-ci, pour les éditeurs, quelles sont les transformations qui se profilent dans l'avenir? Eh oui, pour les éditeurs, ça va changer. B. Relisez le deuxième article. 1. À quel phénomène Bernard Poulet compare-t-il l'arrivée de la digitalisation dans le journalisme? Il fait une référence à quelque chose. Il le compare à autre chose, avec les classes moyennes. Ouais. Je vous donne quelques idées. Quelle en sera, selon lui, la conséquence? Elle est négative, mais à la fois avec une certaine espérance, je peux vous le dire déjà. 2. Quelles sont les deux catégories de journalistes qui subsisteront? Vous vous rappelez, il y en a deux. Il a donné un avec un exemple, et puis le reste. D'accord? Relevez le vocabulaire employé pour décrire la situation future. En fait, la phrase, hein, plus que le vocabulaire, dites-moi la phrase sur ce qu'on fait référence justement à cette situation de futur. La phrase. Il y a une phrase. Numéro 9. Lequel de ces deux articles vous semble le plus optimiste, justifié? Je crois qu'il n'y a pas de doute, hein. 1. Montre un changement de situation. Dans le deuxième, c'est une révolution quasiment, d'accord? Une révolution avec des aspects négatifs, mais avec une certaine espérance, comme j'ai dit tantôt. C'est à vous de voir. Moi, j'ai déjà mon idée parce que, en faisant ce petit résumé que je vous ai dit, vous avez déjà une petite idée de quel est le plus pire. Des deux. Deux sont des aspects malheureusement dramatiques, mais un est plus négatif que l'autre. D'accord? Ça va? Enfin? Je vais vous poser moi les questions sur le texte. Ouais, parce que j'attends aussi que je passe des questions sur le texte. Si les deux sont dramatiques, si les deux textes sont dramatiques, ils font référence à une situation de demain. Moi, ce que je voudrais poser cette question. Dans le premier texte, on parle plutôt des livres. Quel est l'avenir du livre dans ce cas-ci? Disons, là, on montre un certain avenir à moyen terme, on va dire. Mais à long terme, comment voyez-vous l'avenir du livre? Et quel est l'avenir aussi des éditeurs de livres? Mais à long terme, non pas à court terme ou à moyen terme. Là, dans le texte, on parle de à court terme, à moyen terme. Moi, je vous parle du long terme. Qu'est-ce qui se passera après cela? Après tout ce qu'il raconte, qu'est-ce qui va se passer avec les livres? Est-ce qu'on va continuer dans cette même situation ou y a-t-il peut-être quelque chose de nouvel? Disons, on va appeler de révolution. Non, mais on pourrait dire peut-être un nouveau changement dans ce domaine. Donc, pour vous, qu'est-ce que serait le nouveau changement? C'est ça que je voudrais vous poser. Dans le deuxième texte, moi, la question que je vous poserai à partir de disons, de ces deux formes de journalisme, pensez-vous on aura toujours besoin d'un journaliste. Aurons-nous toujours besoin d'un journal, d'une personne qui vous informe de ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un qui nous traduise, entre guillemets, qui nous traduise ce que nous racontent les experts, les scientifiques, les politiciens, les économistes? Avons-nous besoin du journaliste pour comprendre les choses? Ou bien a-t-on besoin de comprendre un peu mieux ces experts avec nos propres connaissances? Je vous pose la question. Faut-il un intermédiaire entre nous, les clients de cette information, on va appeler les destinataires, et l'émisseur, les experts? Est-ce que cette information doit passer par un filtre, par un intermédiaire qui serait le journaliste? A-t-on besoin vraiment du journaliste? A-t-on besoin de cette étape? D'accord? Je vous pose la question. Voilà deux questions que je vous pose. Un sur le livre et deux sur le journalisme que je voudrais que vous me répondiez. Ça va? Enfin, dernier petit texte de cette page 19. C'était un petit article. Très court, facile, et il faut savoir répondre à partir des questions du livre. C'est un texte de Frédéric Desson, de quelle source? Midnews.com, qui doit être sûrement un site internet, et réalisé le 28 octobre 2008, donc il y a 7 ans. Des startups développe des solutions sur le thème de la reconnaissance temps réel de forme dans une vidéo. Si cette dernière innovation voyait le jour, une de ses applications serait tout aussi impressionnante et inquiétante. On pourrait la dénommer Web Image Sémantique, c'est-à-dire l'identification via moteur de recherche de formes qui jouerait en quelque sorte le rôle de métadonnées. Il serait alors possible de retrouver des objets, des personnes directement dans des milliards d'images du web. Mais cela reste encore de la science-fiction. Question. Le numéro 10. Lisez l'article ci-dessous. Définissez la web image sémantique. Puis expliquez quelles sont les craintes du journaliste. Ça va? Oui, le 11, on peut pas le faire parce qu'il faut écouter un porte-parole. Bon, il faudrait avoir le CD-ROM et pour ça, vous pouvez pas faire la comparaison avec ce qu'on vient de voir. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de définir qu'est-ce qui web image sémantique, comme vous propose la numéro 10, et expliquer quelles sont les craintes du journaliste. Ouais. En fait, elles sont pas expliquées, les craintes. On vous demande, vous, de voir à partir de ce qu'on vous donne comme information, quelles sont les craintes qu'a le journaliste à partir de ces identifications. D'accord? Parce que tout pourrait être identifié. Mais moi, je vous pose la question après. Moi, est-ce possible de pouvoir tout identifier, toutes les images, toutes les choses que vous voyez, les pouvoir identifier? Est-ce possible qu'un ordinateur avec des métadonnées puissent donner des noms à toutes les images qu'ils voient? Ça, c'est une voiture, ça, ils voient une image d'un paysage et il va dire ça c'est des arbres, ça c'est une fleur, ça c'est, vous imaginez faire avec toutes les images qui apparaissent? Ça serait une folie. Enfin, pour moi, ça serait une folie. Qui encode en plus toutes ces images, de dire voilà, là dans cette image il y a une maison du 18e siècle, là on voit une personne, elle s'appelle un tel, là il y a une voiture, la voiture de telle marque, enfin ce serait une folie. Je sais pas, est-ce possible de le faire? D'abord la question, est-ce possible de le faire? Deux, qui ferait le travail d'encoder tout? 3. Est-ce que ça nous servirait vraiment? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça servirait à nous sentir mieux d'avoir toute cette reconnaissance, cette identification de toutes les choses? Je sais pas. Moi, j'ai des doutes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et quelle est votre opinion? Mais moi, je voudrais bien savoir. Est-ce que c'est vraiment possible, d'abord, de pouvoir tout identifier? Et est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est utile pour la vie? Pour la vie quotidienne, en fait. Est-ce que ça nous servirait? Peut-être pour certaines choses, oui. Peut-être pour d'autres, non. Mais j'en vois pas l'utilité. Pour l'instant, moi. Je sais pas. Peut-être que quelqu'un a une autre opinion. Et il pourrait peut-être me la dire. Mais bon, voilà. Pour l'instant, pour moi, répondre à ces questions. Est-ce possible de le faire d'abord? Et deux, à quoi ça nous servirait? Je vous pose des questions. C'est à vous de les répondre, d'accord? Ben voilà. Je termine juste ici. La semaine prochaine, nous passerons à une autre page. J'essaie de remettre ça. Voilà. À une forme normale. Voilà, c'est parfait. Voilà. La semaine prochaine, nous passerons à la page 20. Voilà. D'accord? Aujourd'hui, c'est tout. Je laisse ici. Ça sera jeudi prochain, le C'est ça? Bah oui, on a le 3, le 10. Le 12 décembre, nous verrons déjà à la lettre, d'accord? Ce sont des petites situations, ce qu'on explique un peu, ce qu'on doit faire, d'accord? Donc vous verrez bien à partir de ce moment-là. Bien, je vous laisse. Merci et à la semaine prochaine, en espérant que vous soyez présents. Au revoir.